Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au cœur de l'histoire. Dans ce deuxième épisode de notre série sur Élisabeth II, je vous raconte comment la princesse héritière a traversé la Seconde Guerre mondiale et finit par imposer à ses côtés celui qui régnait sur son cœur depuis ses 13 ans, le prince Philippe de Grèce. Pour le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, la reine devait présider une grandiose cérémonie à Londres. Hélas, à cause de l'épidémie de Covid, le Royaume-Uni est confiné, Élisabeth II ne fait pas exception. Pour son lockdown, elle a choisi le château de Windsor qui est particulièrement cher à son cœur. Protocole sanitaire oblige, la célébration se résume à un discours télévisé filmé par un seul caméraman.
I speak to you today at the same hour as my father did exactly 75 years ago. His message then was a salute to the men and women at home and abroad.
C'est la sixième fois en 68 ans de règne que la souveraine s'adresse directement au peuple britannique pour un motif particulier. Cette intervention n'a rien à voir avec le discours qu'elle prononce chaque année à Noël pour ses vœux à la nation. Dans l'allocution du 8 mai 2020, qu'elle a, comme à son habitude, écrit elle-même, elle veut voir un lien direct entre le courage des Britanniques pendant la guerre et le courage qu'ils doivent avoir pour affronter le péril de l'épidémie. Comme toujours, la reine a choisi minutieusement tous les symboles autour d'elle. Sur son bureau, une photo de son père, le roi George VI, prise le jour où il a prononcé son discours du 8 mai 1945. Sur le guéridon derrière elle, une autre photo représente le balcon du palais de Buckingham, prise également le 8 mai 1945, où elle apparaît en uniforme. On voit, de gauche à droite, la princesse héritière Elizabeth, sa mère la reine, le premier ministre Winston Churchill, le roi et la princesse Margaret. Seule la famille royale salue la foule. Churchill, souriant, garde les mains derrière le dos. Sa présence est exceptionnelle. Le balcon est réservé au souverain. C'est un hommage du roi George VI à celui avec qui il a travaillé jour et nuit pendant près de 5 ans. Posée en évidence sur son bureau, la casquette kaki qu'Elisabeth portait lorsqu'elle faisait partie du service auxiliaire territorial en 1945. La reine veut rappeler à son peuple qu'elle a vécu la Seconde Guerre mondiale et que son expérience lui permet de faire un rapprochement avec les temps difficiles de l'épidémie. Ce très beau discours, extrêmement patriotique, a particulièrement touché le cœur des Britanniques, car pour les réconforter, la souveraine a fait appel à ses propres souvenirs.
La guerre a affecté tout le monde, mais personne n'était immunisé contre son impact. Aujourd'hui, il est très difficile de ne pas pouvoir célébrer cet anniversaire marquant comme on le souhaiterait. À la place, on se souvient depuis chez nous. Mais nos rues ne sont pas vides. Elles sont pleines de l'amour et de l'attention que nous avons les uns pour les autres. Et quand je regarde notre pays aujourd'hui et que je vois ce que nous sommes prêts à faire pour nous protéger et nous soutenir les uns les autres, je dis avec fierté que nous sommes toujours cette nation que les soldats, les marins et les aviateurs reconnaîtraient et admireraient.
I send my warmest good wishes to you all.
Après sa visite au Royal Naval College de Dartmouth en juillet 1939, et la première rencontre de la princesse héritière avec le prince Philippe de Grèce, la famille royale gagne l'Écosse et le château de Balmoral au mois d'août. Entre deux chasses à la grouse, George VI se rend dans le Dorset pour inspecter la flotte de réserve de la Royal Navy. Mais l'annonce de la signature du pacte germano-soviétique le 22 août oblige le roi à rentrer à Londres d'urgence. Il est d'autant plus furieux que jamais la chasse à la grouse n'avait été aussi fructueuse. Margaret, 9 ans, est elle aussi contrariée. Elle déclare « Mais qui est cet Hitler qui gâche tout ?» Le 1er septembre, l'invasion de la Pologne par l'armée allemande entraîne un ultimatum du Royaume-Uni et de la France à Hitler. Il reste sans réponse. Les deux États entrent en guerre contre l'Allemagne nazie. La reine a rejoint son mari après avoir installé la gouvernante Crophy et les deux princesses à Burke Hall, moins grand que Balmoral et plus facile à tenir. Cette période que nous appelons la drôle de guerre, les Britanniques la surnomment Phony War. En fait, il ne se passe pratiquement rien. En décembre, Lilibet et Margaret rejoignent leurs parents à Sandringham. Elles découvrent leur père en uniforme d'amiral de la flotte, une tenue qu'il ne quittera plus jusqu'à la fin de la guerre. Lilibet ne profite guère des fêtes de Noël. Elle pense sans arrêt à la première tragédie de la guerre qui s'est déroulée au nord de l'Écosse, dans la rade de Scapa Flow. Le cuirassé Royal Oak a été torpillé par des sous-marins allemands. Plus de 800 marins britanniques ont perdu la vie. Ce triste Noël sera aussi le dernier à Sandringham jusqu'à la fin de la guerre. George VI et son épouse regagnent Londres. Crophy et les princesses s'installent alors à Royal Lodge dans le parc de Windsor. La drôle de guerre prend fin le 9 avril avec l'invasion du Danemark et de la Norvège par les Allemands. Le roi Haakon de Norvège parvient à s'échapper sur un navire britannique et gagne Londres. Après l'échec de la campagne britannique en Norvège, au Parlement, conservateurs et opposition désavouent le Premier ministre Chamberlain le 8 mai 1940. Le seul politicien capable de constituer un gouvernement d'union nationale est Winston Churchill. Cela n'enchante guère George VI et sa famille, tous très attachés à Chamberlain. La princesse Élisabeth dit à sa mère « J'en ai pleuré ». George VI est, a priori, hostile à Churchill pour deux raisons. Il avait pris parti pour Édouard VIII avant son abdication et il avait désavoué Chamberlain au moment des accords de Munich. Malgré ses réserves, le roi va très rapidement apprécier l'énergie et la puissance de travail de son nouveau Premier ministre, la reine et leur fille aussi. Cette dernière demande à Crophy de quitter Royal Lodge et de s'installer pour quelques jours au château de Windsor avec les princesses car on craint des bombardements sur Londres. Lilibet et Margaret y resteront jusqu'à la fin de la guerre. Le 13 mai, la reine Wilhelmine des Pays-Bas arrive également à Londres. Elle a échappé à Hitler qui voulait la prendre en otage. La Belgique et la France sont à leur tour envahies. Le 4 juin, les Britanniques achèvent l'évacuation de Dunkerque grâce à la réactivité de Churchill qui a réquisitionné des bateaux privés pour rapatrier des troupes britanniques et en partie françaises encerclées par les Allemands dans le piège de la ville du Nord. Churchill et le roi règlent aussi la délicate situation du duc et de la duchesse de Windsor. Ceux-ci ont quitté la France et se trouvent au Portugal. Churchill les oblige à gagner les Bahamas, dont l'ex-roi Édouard VIII est nommé gouverneur général. L'évacuation du couple a lieu le 1er août 1940. Dans la nuit du 7 au 8 septembre, Londres est bombardée par la Luftwaffe. C'est le début du Blitz. La guerre est claire. Les dégâts sont terribles. 400 morts et 1300 blessés. Le 9, une bombe atteint Buckingham Palace. Elle n'explose que le lendemain. Par chance, George VI n'est pas dans son bureau qui est pulvérisé. Le 13 septembre, un avion allemand attaque directement le palais. La chapelle est en ruine. Le roi et son épouse échappent encore de peu à la mort. Le couple atteint alors une immense popularité. Il reste à Londres et partage les souffrances de la population. La reine est toujours élégante et impeccable, non par provocation, mais pour incarner l'image royale. Elle visite sans relâche les zones bombardées, apportant secours et compassion à ses sujets. Lilibet et sa sœur sont aussi mobilisées. Le 13 octobre 1940, la princesse héritière lit son premier discours à la radio, destiné aux enfants du Royaume-Uni et de l'Empire, au cours d'une célèbre émission de la BBC, L'heure des enfants. D'une voix déterminée, la princesse déclare
« Je sens que je parle à des amis et à des compagnons qui ont partagé avec ma sœur et moi beaucoup d'heures d'enfants. Des milliers d'entre vous dans le pays ont dû quitter leur maison, être séparés de leur père et de leur mère. Ma sœur, Margaret Rose et moi, sommes tout près de vous. »
Désormais, les deux sœurs, installées dans une tour du château de Windsor, s'adaptent à la vie en temps de guerre. Toujours accompagnées de leur corgi, elles cultivent des légumes dans un potager. À l'intérieur de la forteresse, les fenêtres sont bouchées. Il y a des sacs de sable partout. L'électricité fonctionne chichement. Les baignoires ont reçu un trait de peinture tracé par le roi lui-même marquant la limite du volume d'eau pour un bain, pas toujours très chaud. Comme tous les Britanniques, ces filles sont soumises au rationnement. Elles n'ont droit qu'à un œuf par semaine au breakfast du dimanche. Crophy leur dispense des leçons quotidiennes. Lilibet, en tant que princesse héritière, reçoit deux fois par semaine des cours de droit constitutionnel donnés par un éminent professeur du collège d'Eton. Il y a quand même quelques distractions. Dans la salle Waterloo, les sœurs jouent parfois des pantomimes destinées au personnel du château et à leurs parents. En 1942, elles se produisent dans Aladdin. Lilibet incarne le jeune voleur et Margaret le personnage de Roxane. À cause de la pénurie, les princesses font preuve d'une grande créativité pour concevoir costumes et décors. À cette époque, une aristocrate belge qui a fui son pays au moment de l'invasion allemande, Antoinette de Bellegue, rejoint les princesses pour leur apprendre le français. Elle l'adore et la surnomme vite Tony. C'est à elle que la future reine devra sa parfaite connaissance de la langue de Molière, qu'elle parle avec une pointe d'accent très british.
Je me rappelle le plaisir que j'ai eu à découvrir ce beau pays pour la première fois et à cultiver à mon tour une grande affection pour le peuple français.
Outre les représentations théâtrales, il y a aussi des occasions de détente avec les jeunes officiers assurant la sécurité du château. Des pique-niques dans le parc et des soirées dansantes dont la princesse Margaret est la véritable star sont organisées malgré les restrictions. En 1943, la cadette d'Elisabeth n'a que 13 ans. Elle aime attirer l'attention, plaisanter et surtout danser. Sa sœur, qui a 17 ans, est beaucoup plus réservée. Pourtant, il y a parmi ces jeunes gens des fiancés potentiels pour la future reine, notamment Hugh Houston, héritier du duc de Grafton. Un parti qui plaît certainement au roi et à la reine. Mais ce riche aristocrate, grand propriétaire terrien, n'a aucune envie d'un destin royal. Il tient trop à sa liberté. Quant à Elisabeth, si elle aime bien ce camarade, dans son cœur, il n'y a de place que pour Philippe de Grèce. Le coup de foudre de juillet 1939 n'était pas que passager. Ils vont se revoir à plusieurs reprises lors de permissions du prince, notamment pour les fêtes du Nouvel An à la fin de 1943. Philippe est très bien né, mais il n'a pas eu une vie facile. Il est le fils du prince André de Grèce, frère du roi Constantin Ier. Sa mère est la princesse Alix de Battenberg, sœur aînée de Lord Louis Mountbatten, ce patronyme n'étant que la transcription anglaise du nom allemand Battenberg. Par sa mère, Philippe est un descendant direct de la reine Victoria, et par son père, un parent de la famille royale de Danemark et un descendant des Romanov. Il naît le 10 juin 1921 à Corfou, sur la table de cuisine d'une modeste villa, après que le roi de Grèce a été chassé du trône par une énième révolution. En 1922, la famille de Philippe se réfugie en France, à Saint-Cloud, dans une maison appartenant à son oncle. Celui-ci avait épousé Marie Bonaparte, héritière par son grand-père maternel de François Blanc, le créateur de la Société des Bains de Mer de la Principauté de Monaco. Autant dire que le couple n'avait pas de problème d'argent. Philippe a 4 sœurs aînées, mais ses parents ne s'entendent pas. À 10 ans, sa vie bascule. Sa mère, souffrant d'une grave dépression, part se faire soigner à Vienne, à Berlin, puis en Suisse. Son père, après avoir marié ses 4 filles à des princes allemands, s'installe avec sa maîtresse à Monte-Carlo. C'est sa sœur, Dola, épouse du margrave de Bade, qui prend Philippe en charge. Il fait ses études en Écosse, à Gornenstoun. Le prince, abandonné par ses parents, ne sait jamais où il va atterrir pour les vacances, tantôt chez ses sœurs, tantôt chez sa grand-mère, la marquise de Milford Haven, résidente à Londres au palais de Kensington. C'est son oncle, Lord Mountbatten, qui le pousse à s'inscrire à Dartmouth. Au début de la guerre, Philippe est dans l'océan Indien. Il revient en Grande-Bretagne en 1942 pour assurer la surveillance des côtes anglaises, infesté de sous-marins allemands. C'est à ce moment-là qu'il va revoir, à plusieurs reprises, Lilibet. Le 21 avril 1944, jour de ses 18 ans, La princesse a juridiquement le droit de monter sur le trône, Churchill ayant décidé d'abaisser l'âge requis de 3 ans. Mais la période est dangereuse. Hitler fait pleuvoir des V1 et des V2 sur les îles britanniques, la guerre n'est pas finie et la succession doit être assurée. Un an plus tard, au printemps 1945, Lilibet endosse l'uniforme d'auxiliaire de deuxième classe du Territorial Service. C'est sa première expérience à l'extérieur du cocon de sa vie de princesse. Elle s'entraîne à conduire tout type de véhicules, ambulances et camions compris, et pour l'entretien des moteurs, elle met, au sens propre, les mains dans le cambouis. Elle devient une conductrice passionnée et une mécanicienne expérimentée. Bien plus tard, chaque fois qu'elle le pourra, elle prendra le volant d'un 4x4 pour de grandes randonnées autour de Balmoral. Le 16 avril 1945, Elisabeth est démobilisée. Le mois suivant, le 8 mai, c'est le D-Day, le jour de la victoire. L'apparition au balcon de Buckingham Palace de la famille royale et de Winston Churchill, c'est la photo que la reine a voulu montrer lors de son discours du 8 mai dernier. La guerre est finie, la princesse héritière va maintenant devoir imposer son choix, ce sera Philippe de Grèce ou personne. Alors qu'Elisabeth célèbre la victoire d'abord au balcon du palais, puis en se mêlant, avec sa sœur Margaret et quelques officiers de sécurité, à la foule qui manifeste sa joie, Philippe est bien loin du Royaume-Uni. Il est à bord du destroyer HMS Welt, car la guerre n'est pas finie dans le Pacifique. C'est seulement le 15 août que le Japon capitulera après l'horreur atomique sur Hiroshima et Nagasaki. Le navire de Philippe escorte le cuirassé USS Missouri, où est signée la reddition officielle de l'Empire du Soleil Levant dans la baie de Tokyo. Le jeune homme ne rentre à Londres que le 20 mars 1946. Il doit accomplir une douloureuse formalité. Avec son fidèle ami Mark Parker, il va se rendre à Monaco, où son père, le prince André de Grèce, est mort 2 ans plus tôt. Philippe était alors en mer et n'avait pu se rendre à ses obsèques. Il va récupérer des objets personnels de son père, peu de choses en fait, 2 brosses à cheveux, des boutons de manchette, des malles remplies de vêtements et surtout une chevalière armoriée qui ne quittera plus l'auriculaire de sa main gauche. Triste héritage. Quant à sa mère, elle s'est retirée à Athènes où elle a fondé un ordre religieux orthodoxe après une conduite exemplaire pendant la guerre durant laquelle elle a caché et protégé des juifs recherchés par l'occupant allemand. À son retour, Philippe va évidemment revoir Lilibet. Tout le monde est au courant de leur attirance mutuelle, mais le roi de Grèce, qui vient de récupérer son trône, ainsi que Louis Mountbatten, en ont fait un peu trop pour soutenir Philippe. Ils exaspèrent George VI et même le prince, qui souhaite seulement que les choses se passent sans excès de zèle. Il faut dire que dans l'entourage du roi, sa cote n'est pas très haute. Le secrétaire particulier du souverain, Lassell, le trouve rude et sans manières. Il n'a pas fréquenté les bons collèges, notamment Eton. De plus, il a eu quelques brèves liaisons féminines pendant la guerre et l'on craint qu'il ne devienne un mari infidèle. Philippe est pourtant invité à Balmoral à l'été 1946 et c'est là qu'il va faire sa demande à Elisabeth. Nul ne sait comment les choses se sont passées. C'est leur secret. Ce que l'on sait en revanche, c'est que le roi et la reine souhaitent que cette demande en mariage demeure secrète pendant 1 an. Ce n'est pas une marque d'hostilité à l'encontre de Philippe, ils sont même tombés sous son charme. C'est juste pour profiter encore un peu de leur fille aînée et pour pratiquer, une dernière fois, le « us for », ce « nous quatre » qu'ils chérissent tant. George VI veut que Lilibet fête son 21e anniversaire en Afrique du Sud lors d'un voyage officiel de la famille royale programmé depuis 1 an. Le prétexte politique de ce voyage est de soutenir les autorités sud-africaines avant des élections cruciales que le parti nationaliste, dominé par les Boers, risque d'emporter, ce qui permettrait d'instaurer l'apartheid. C'est effectivement très grave, mais il y a une autre raison. Le roi ne va pas bien. Il est épuisé par ses années de guerre. Un déplacement en bateau vers un pays ensoleillé lui ferait le plus grand bien. Depuis juillet 1945, Churchill n'est plus Premier ministre. Malgré tous ses efforts et ses résultats pendant la guerre, les conservateurs ont été battus. Le nouveau chef du gouvernement est le travailliste Clement Attlee. Il est très favorable à ce voyage en Afrique du Sud. D'autre part, il vient de prendre une décision politique lourde de conséquences, accorder à l'Inde son indépendance. Il a demandé à Lord Louis Mountbatten, qui s'est couvert de gloire pendant la guerre en Extrême-Orient et particulièrement en Birmanie, d'accepter la charge de dernier vice-roi des Indes. C'est à lui qu'incombera la mission de négocier l'indépendance du pays. Lord Mountbatten, Dickie pour ses proches, et son épouse Edwina invite la famille royale à dîner chez eux en petit comité en compagnie de Philippe à la veille de leur départ pour l'Afrique du Sud. Les Mountbatten s'apprêtent eux aussi à partir pour l'Inde. Ce dîner sera une sorte de confirmation des fiançailles officieuses de Lilibet et Philippe. Le 1er février 1947, le roi, la reine et leurs deux filles embarquent à Portsmouth à bord du HMS Vanguard. L'atmosphère y est très joyeuse. On voit les princesses en robe fleurie jouer sur le pont avec les officiers en bermuda blanc. George VI est accompagné de son nouvel écuyer, très séduisant, lui aussi en blanc. En le choisissant, il a rompu avec une tradition qui voulait que ce poste soit occupé par un aristocrate. C'est un pilote de chasse de la Royal Air Force, héros de la bataille d'Angleterre que le roi a voulu distinguer. Il s'appelle Peter Townsend. Si Lilibet s'amuse, elle écrit cependant quotidiennement à Philippe et reçoit également de lui un abondant courrier. C'est un long voyage de 3 mois. Au Cap, la tension est vive, mais en Rhodésie, l'atmosphère est détendue. Pique-nique, danse zoulou, voyage en train spécial, tout enchante les princesses. Le jour de ses 21 ans, le 21 avril 1947, Elizabeth prononce un discours à Cape Town, destiné aux populations de l'Empire.
Je déclare devant vous tous ma vie, qu'elle soit longue ou courte, sera dévouée à votre service et au service de notre grande famille du Commonwealth, empire auquel nous appartenons tous.
4 jours plus tard, la famille prend la route du retour. Pendant ce périple en Afrique du Sud, le cabinet a étudié la possibilité d'octroyer la nationalité britannique au prince Philippe de Grèce. Son patronyme est celui de la maison royale de Danemark, Schleswig, Holstein, Sonderbourg, Glücksbourg. Trop long et impossible à prononcer. Il portera donc le nom de sa mère, Battenberg, anglicisé en Mountbatten, comme pour les membres de sa famille anglaise. Désormais, il sera le lieutenant Philippe Mountbatten. Cette grave question étant tranchée et une année s'étant écoulée, les fiançailles d'Elisabeth et Philippe sont annoncées officiellement aux grilles de Buckingham Palace le 10 juillet 1947. La date du mariage est fixée au 20 novembre, ce sera le premier grand mariage princier de l'après-guerre. La liste des invitations vire au casse-tête. On ne peut convier les parentèles allemandes qui ont participé à la guerre aux côtés du Reich. Aucune sœur de Philippe ne sera présente. Quant à l'oncle David et sa chère Wallis, il n'en est pas question. En dehors de ces quelques ostracismes, ce sera une très grande cérémonie. Les cadeaux affluent du monde entier exposés au palais de Saint-James. Du pur sang offert par l'Aga Khan au napperon tissé sur son métier par Gandhi, il y en a pour tous les goûts, 1500 présents en tout. Le roi et la reine offrent à leur fille un double rang de perles qu'elle portait pour son discours télévisé du 8 mai 2020 en hommage à ses parents. En raison des difficultés économiques, il faut encore des coupons pour acheter du tissu. La princesse portera une somptueuse robe de satin blanc brodé, réalisée par Norman Hartnell, le couturier de sa mère. George VI confère l'ordre de la jarretière à sa fille et à son gendre. Il est bien sûr Altesse royale et reçoit de nombreux titres, mais c'est celui de duc d'Édimbourg que l'histoire retiendra. La veille du mariage, une immense réception réunit tous les invités royaux venus en masse. La reine Mary est heureuse de retrouver tous ses vieux amis dont beaucoup sont détrônés. On se déchaîne sur une danse à la mode, la conga, et c'est le roi, très détendu, qui conduit la chenille qui traverse joyeusement les salons du palais. Le lendemain, on a sorti le carrosse d'État qui le conduit avec sa fille à l'abbaye de Westminster. Après la cérémonie, le véhicule des jeunes mariés est acclamé tout au long du parcours et bien sûr, les jeunes époux et la famille royale apparaissent au balcon. À propos de ce mariage, Churchill dit « C'est un éclair de couleur sur la route que nous devons suivre. Le wedding breakfast est somptueux. À la fin du déjeuner, la princesse part se changer. Ses parents et les invités attendent le couple et répandent sur eux une pluie de pétales de roses. Elisabeth et Philippe partent pour la gare de Waterloo. Ils passent la première partie de leur lune de miel à Broadlands, la propriété de campagne de Lord Louis Mountbatten. C'est là que Lilibet lit la lettre bouleversante que lui a adressée son père.
J'étais si fier de vous et si enthousiaste de vous avoir si près de moi pendant cette longue marche dans l'abbaye de Westminster. Mais quand j'ai donné votre main à l'archevêque, j'ai senti que j'avais perdu quelque chose de très précieux. Je vous ai regardé grandir pendant toutes ces années avec fierté sous l'autorité avisée de maman, qui est, comme vous le savez, la plus merveilleuse personne du monde à mes yeux. Et je sais toujours compter sur vous et maintenant sur Philippe pour nous aider dans notre travail. Je puis voir que vous êtes sublimement heureuse avec Philippe, qui est parfait. Mais ne nous oubliez pas, c'est le vœu de votre toujours dévoué et aimant papa.
À son retour du voyage de noces, le jeune couple s'installe d'abord à Buckingham Palace. Philippe travaille désormais à l'amirauté et part tous les matins à son bureau. En mai 1948, les Mountbatten effectuent leur première visite officielle à Paris. Ils y connaissent un triomphe du dîner à l'Élysée à la soirée à l'Opéra. La jeune mariée est enceinte, mais personne ne s'en aperçoit. Le 14 novembre 1948, à Buckingham Palace, elle donne naissance à son premier enfant, Charles.
It has just been announced from Buckingham Palace that Her Royal Highness, the Princess Elizabeth, Duchess of Edinburgh, was safely delivered of a prince at 9:14 p.m.
Dès le printemps suivant, en juin 1949, Elisabeth et Philippe s'installent à Clarence House qui a été entièrement restauré pour eux. C'est Philippe qui s'est occupé de la décoration. Pour la première fois de sa vie, il est chez lui, dans une maison aménagée par ses soins. Cette même année, il reprend la mer, il est commandant en second du navire amiral de la flotte britannique en Méditerranée. Ce n'est pas un hasard. Son oncle, après avoir accompli sa difficile mission en Inde, commande la première escadre de croiseurs en Méditerranée basée à Malte. Elisabeth part rejoindre son mari en novembre, laissant Charles à Londres avec sa nurse. Elle est accueillie par les Mountbatten et tombe sous le charme de Dicky, le prestigieux oncle de Philippe. Il est excellent danseur, elle aussi. Plus tard, Elisabeth dira qu'elle a passé à Malte les moments les plus heureux de sa vie. Le secrétaire du duc, Michael Parker, raconte
« On allait nager, danser, il y avait des pique-niques, des expéditions en bateau, sur les plages, dans les grottes et à l'île de Gozo. »
Elisabeth est à nouveau enceinte. Elle rentre à Londres pour accoucher le 15 août 1950 à Clarence House de son deuxième enfant, la princesse Anne. En septembre, Philippe retourne à Malte. La princesse le retrouve pour les fêtes de fin d'année. Les deux enfants sont confiés à leurs grands-parents. Pour Elisabeth et Philippe, c'est une nouvelle lune de miel. Ils vivent pour eux, leur vie est agréable, elle leur convient. Ils ont peu de contraintes, ils en profitent, mais cela ne va pas durer. En juillet 1951, Elisabeth et Philippe quittent Malte définitivement pour rentrer à Londres. Edwina Mountbatten aura ce joli mot « On remet l'oiseau en cage ». C'est un peu vrai car la raison de leur retour est la maladie de George VI. Ce grand fumeur est très amaigri et tousse beaucoup. Il ne renonce pourtant pas à ses 40 cigarettes par jour. Le 7 septembre 1951, il est opéré à Buckingham Palace d'une tumeur au poumon. Elle est cancéreuse, mais on ne le dit pas au roi. Le duc et la duchesse d'Édimbourg doivent remplacer le couple royal pour une visite au Canada prévue en octobre. La presse canadienne est critique à l'égard de la princesse héritière qu'elle juge peu souriante. C'est évidemment l'état de santé de son père qui la préoccupe. Elle fera un effort pour danser avec Philippe un traditionnel square dance et conquérir le cœur des Canadiens. Le couple rentre à temps pour passer les fêtes à Sandringham en famille. Mais George VI est épuisé. l'enregistrement de son traditionnel message de Noël est un calvaire. Désormais, Élisabeth est totalement au service de la couronne. Le duc et la duchesse d'Édimbourg remplacent le roi et sa femme pour un long voyage qui les conduit au Kenya, puis en Australie et en Nouvelle-Zélande. Une fois de plus, ils quittent leurs enfants pour de longs mois. À leur départ de Londres, le 31 janvier 1952, George VI accompagne sa fille et son gendre sur le tarmac. Sur une photo, on le voit très amaigri, marqué par la maladie, faire un long geste au de revoir à sa fille. Ils ne se reverront pas. Au matin du 6 février 1952, après une nuit dans une chambre aménagée dans un figuier géant du Kenya, au Sagana Lodge, le couple est informé par télégramme de la mort du roi. Sa Majesté a succombé dans son sommeil à un cancer de la plèvre. Élisabeth est bouleversée et Philippe, qui lui a annoncé la nouvelle, est atterré. Sa femme est devenue reine. Leur vie ne sera plus jamais la même, ils vont désormais porter le poids de la couronne. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de notre série spéciale Au cœur de l'histoire consacrée à Élisabeth II.
Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio. Il est écrit et présenté par Jean Descartes. Cet épisode a été réalisé par Jean-François Bussière. Ressources bibliographiques. Élisabeth II par Sarah Bradford, Penguin Books, nouvelle édition 2002. Queen Elizabeth the Queen Mother par William Shawcross aux éditions Pan Books 2009. George VI par Sarah Bradford aux éditions Penguin Books 1989. Élisabeth II, la reine, par Jean Descartes aux éditions Perrin 2018.